Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est 9h30 et tout de suite les titres de l'actualité avec Nathan Lacomble.
Bonjour à toutes et à tous, ce 20 novembre, nous fêtons la journée des droits de l'enfance. Coup de projecteur sur une initiative de la ville de Liège. Résultat des élections annulées à Saint-Josse, le bourgmestre réélu, Émir Kir, fait face à des accusations de fraude électorale. Ils ont les moyens de vivre seuls et pourtant, ils décident d'habiter dans des résidences étudiantes. Rencontre avec ces adultes vivant en côte. C'est la fin d'un mythe. Raphaël Nadal range sa raquette après avoir annoncé sa retraite le mois dernier. Il a joué son dernier match hier en Coupe Davis. Pour fêter la journée des droits de l'enfant, la ville de Liège a lancé une charte pour préserver les droits des petites têtes blondes. Ces derniers ont même participé à l'élaboration de la charte. Julie Fernandez, échevine de la jeunesse à Liège, au micro de Quentin Coles.
En échangeant avec le service jeunesse, on s'est dit que c'était peut-être pertinent que ce soit les enfants eux-mêmes qui déclinent leurs priorités, des droits qu'ils pensaient devoir mettre mis en avant dans la ville. Et donc demain, ce sont les membres de la commission enfants, de la commission consultative jeunesse ardente qui a travaillé sur les droits de l'enfant, qui va présenter ses travaux à la commission des aînés, enfin des adultes. Et donc ils vont présenter le travail, comment ils ont travaillé, ce qu'ils y ont fait, et ils vont amener une proposition de charte.
Une charte qui se divise en quatre grands axes.
Eux-mêmes ont défini quatre axes de travail prioritaires. Et les quatre axes prioritaires qu'ils ont développés, c'est la lutte contre le harcèlement à l'école, la protection des enfants sur les réseaux sociaux, la prévention contre l'alcool, l'abus d'alcool et de drogue, et la préservation de l'environnement et le respect des espaces publics.
Le projet de charte sera présenté cet après-midi lors d'un événement organisé à la patinoire de Liège. Les enfants pourront profiter de différents types d'activités. L'entrée est gratuite pour les 6-15 ans. Un peu plus loin de chez nous, chaos électoral dans la commune bruxelloise de Saint-Josse, en cause des irrégularités constatées lors du comptage des voix. Que se passe-t-il vraiment, Thomas ?
La liste du bourgmestre Émir Kir est arrivée largement en tête lors des dernières élections communales. Des résultats peut-être un peu trop beaux pour être vrais. Le PS, Écolo et la team Fouad Haïdar ont introduit un recours au collège juridictionnel de la région bruxelloise. Et ce dernier vient de leur donner raison. Ce qui cloche, c'est le nombre inhabituellement élevé de votes par procuration. Au total, 350 bulletins ont été jugés problématiques. Le résultat de l'élection est donc annulé. De son côté, le bourgmestre dénonce une décision politique contre lui.
Il faudra donc organiser de nouvelles élections.
Émir Kir a encore la possibilité d'introduire un recours au Conseil d'État d'ici 8 jours. Dans ce cas, deux possibilités. Soit le conseil lui donne raison et valide l'élection, soit il confirme la décision du collège bruxellois et là, c'est le retour aux urnes.
C'est Émir Kir, c'est une personnalité connue, voire même clivante, Thomas.
Il est le bourgmestre de Saint-Josse depuis 2012. Il a fait ses armes au Parti Socialiste. Très rapidement, il devient la machine à voix du parti. Il est réélu en 2018, mais l'opposition dénonce déjà des possibles fraudes par procuration, justement. Il est exclu du PS en 2020, la raison. Il a reçu deux élus de l'extrême droite turque. Sa propre liste a récolté 50,5% des voix lors des élections d'octobre.
Merci Thomas. Si vous vouliez justement vous rendre à Saint-Josse en voiture aujourd'hui, il faudra lever le pied. La police de la route mène une opération marathon dans tout le pays. De nombreux contrôles de vitesse sont organisés depuis 6 heures ce matin. Ils prendront fin demain à la même heure. Ils sont dans la trentaine, ont une situation stable. Et pourtant, ils habitent dans des résidences étudiantes. Rencontre avec ces adultes qui continuent de vivre comme des étudiants. D'Antoine Ramet.
Ce matin, Arthur se retrouve bien seul dans la pièce commune de son cote. La plupart de ses colocataires sont en classe, alors que le jeune éducateur de 35 ans est en congé. En fait, Arthur est déjà rentré dans la vie active et il a pourtant choisi de continuer de vivre entouré d'étudiants. Une décision qui lui permet de toujours se sentir accompagné.
J'ai jamais aimé être trop seul. Bizarrement, je supporte pas être étouffé non plus. Donc ici, je trouvais que c'était un bon compromis entre une vraie colocation qui m'aurait pas forcément convenu où on est souvent les uns sur les autres.
Si la simplification administrative est un aspect qui a attiré Arthur, le côté financier n'était pas forcément un moteur. Pour preuve, il est déjà propriétaire d'une maison de vacances.
Même si le remboursement n'est pas très élevé, ça me permet de pouvoir le faire plus facilement, parce qu'ici on est à peu près à 500 euros.
Nicolas est dans une situation similaire à celle d'Arthur. Ce fonctionnaire de 36 ans a quant à lui été séduit par l'avantage économique de la vie en côte.
La pression immobilière est très forte à Liège, donc les loyers sont très élevés, il y a beaucoup de demandes pour peu d'offres. Donc du coup, ici, pour ce que je paye actuellement, si je veux la même chose, même dans un petit studio, ce serait 200 euros supplémentaires.
Mais tout comme Arthur, la motivation principale de Nicolas, c'est la vie en communauté.
J'ai la chance d'avoir des gens qui changent régulièrement. Alors quand ça se passe mal, c'est tant mieux. Quand ça se passe bien, c'est assez sympa justement d'avoir des gens du monde entier qui viennent et d'avoir des échanges un peu multiculturels.
Et cette vie en communauté, Nicolas la résume simplement.
Le côté positif, c'est qu'on n'est jamais seul. Le côté négatif, c'est qu'on n'est jamais seul.
Un point sur l'actualité internationale, dans la continuité de l'annonce faite par Joe Biden concernant l'envoi de missiles en Ukraine, la Maison-Blanche a annoncé l'envoi de mines antipersonnelles aux troupes de Volodymyr Zelensky. Si l'Ukraine peut compter sur le soutien américain, la Russie a quant à elle reçu des nouvelles armes provenant de son allié nord-coréen. En ce qui concerne le conflit au Moyen-Orient, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur un nouveau projet de cessez-le-feu à Gaza. Le projet exige un cessez-le-feu immédiat pour toutes les parties et la libération inconditionnelle de tous les otages. Formulation que fustigent Israël et les États-Unis, ils estiment qu'il doit y avoir un lien direct entre le cessez-le-feu et la libération des otages. Place à la culture avec Edmond, une œuvre de René Magritte fait sensation lors d'une vente aux enchères.
Le célèbre tableau « L'Empire des Lumières » de René Magritte a été vendu pour 121 millions de dollars à New York mardi soir. Cette vente spectaculaire a pulvérisé les estimations initiales et établi un nouveau record mondial pour une œuvre du peintre surréaliste belge. Dans le reste de l'actualité culturelle, le mythique manga japonais Dragon Ball fête son 40e anniversaire ce mercredi. L'œuvre emblématique avait fait ses débuts dans le Weekly Shonen Jump le 20 novembre 1984.
Nous retrouvons Quentin pour le point sport.
Cet officiel, Rafael Nadal, s'est retiré du tennis hier après sa défaite en Coupe Davis contre Van de Zandschulp. Nadal s'est incliné sur le score de 6-4-6-4. L'homme aux 22 grands chelems, dont 14 Roland-Garros, s'est montré très ému lors de l'interview d'après-match.
Les titres, les statistiques, elles sont là, les gens les connaissent. Mais le plus important, c'est que le souvenir qui reste de moi soit celui d'une bonne personne, du jeune homme venant d'un petit village de Majorque.
En football, les Diablotins ont loupé le coche hier contre la Tchéquie, battue 0-2 à l'aller et contraint au partage 1-1 lors du barrage retour. Les Diablotins n'ont pas réussi l'exploit d'arracher une cinquième qualification pour la phase finale de l'Euro U21.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à demain sur 48FM.